Bonjour, dans un instant va commencer l'émission Dans mon tiroir. Pendant une heure, c'est vous qui avez le pouvoir grâce au site radio-g.fr. En effet, à tout moment, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton stop situé sur le site radio-g.fr. Si une chronique vous ennuie ou que vous la trouvez trop longue, stoppez-la de chez vous avec un simple clic. Dans le studio, nous entendrons alors ce jingle. On devra alors changer de sujet. Au contraire, si le sujet est intéressant et que le chroniqueur peut le finir, il aura droit à ça.
C'était vraiment très intéressant.
C'est donc vous qui, dans un instant, allez prendre le pouvoir. Pendant que l'équipe s'installe, rendez-vous de suite sur le site radio-g.fr et cliquez sur le bouton qui vous invite au vote. Vous pouvez aussi aller sur le chat pour parler avec nous, anonymement et simplement pendant l'émission. Nous voyons en direct vos messages. Prêts à prendre le pouvoir, c'est à vous de jouer sur radio-g.fr.
Si tu sois, t'as envie d'ouvrir ton tiroir pour voir ce qu'il y a dedans et trouver ça marrant. AMT, l'émission de Radio G, 19h à 20h. Toi, AMT, l'émission de Radio G de 19h à 20h. Offre-toi un peu de bonheur. Ce soir, ça va être marrant, car il va y avoir Florian. Ça va aussi vous intéresser, car il va y avoir Olivier. Alors écoute BMT, l'émission de Radio G de 19h à 20h. Oh, toi BMT, l'émission de Radio G de 19h à 20h. Offre-toi un peu de bonheur. Des infos tu apprendras dans la chronique de Sandra, des idées à l'appel dans celle de Raphaël. Comment plus c'est réalisé par Jo. Ce soir ça va être chaud, ça va être chaud. Arrête chaud PMT, l'émission de Radio G de 19h à 20h.
Bonsoir et bienvenue dans mon tiroir, l'émission qui a des choses à vous dire. Par contre, sont-elles toutes intéressantes? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ce soir avec cette émission interactive où on vous donne, où vous donnez votre avis de chez vous en temps réel sur le site radio-g.fr. 19e émission ce soir. Bonsoir Olivier.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Sandra.
Bonsoir.
Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Oh là là, ça fait longtemps. En plus, c'est le vrai là, hein, c'est pas un clone. C'est le vrai Florian qui est là.
Quel privilège.
Ouais, t'as écouté ton clone ou pas? Toujours pas?
Non.
Non? Ah bah bravo. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Et bonsoir Joe également qui réalise cette émission.
Bonsoir Bruno.
Eh bien, ouvrez bien. Alors, est-ce que vous avez ouvert vos smartphones là? C'est bon?
Ah oui.
Tout le monde?
Il y a déjà un stop.
Il y a déjà un stop, c'est pas possible. Ça, allez, on reset quand même. Donc, de chez vous, vous verrez. Hein, vous allez sur le site radio-g.fr, vous cliquez là, sur l'invite pour aller faire le vote. Et vous avez deux gros boutons, un bouton cool, un bouton stop. Eh bien, vous cliquez sur celui que vous voulez pendant les chroniques. Tout le monde est prêt, c'est parti. Bienvenue dans DMT. On commence avec Olivier, et ça tombe bien aujourd'hui pour ta chronique.
Oui, incroyable.
Incroyable.
Parce que ce matin, j'ouvre mon tiroir et
puis déjà, c'est pas crédible.
Et je retrouve un vieux billet de spectacle que j'avais vu au Festival d'Anjou. Et il se trouve qu'aujourd'hui ouvrait la billetterie pour le Festival d'Anjou.
Comme par hasard.
Hein, au Grand Théâtre d'Angers. Et même à 7h30, il y a plein de monde devant le théâtre pour trouver des places. Donc les billets sont en vente depuis aujourd'hui au Grand Théâtre. Et c'est toujours... C'est aussi en vente en ligne.
Je sais pas pourquoi ça fait ça.
Sur le site du Festival d'Anjou. Alors, est-ce que vous savez, c'est la 20e édition du Festival d'Anjou? Est-ce que vous savez depuis quand ça existe, le Festival d'Anjou? Non?
1962.
1962. Non.
N'importe quoi.
Et puis encore plus vieux que ça. 49. Ah, presque.
Dans les années 30?
Non, non, non. Presque, oui, 1950.
Ah, quand même?
Oui, ça fait 74 ans.
Je croyais pas.
C'est un des plus anciens festivals de théâtre. Il a été créé seulement 3 ans après Avignon.
D'accord.
Et c'est considéré comme le deuxième festival de théâtre en France, après celui d'Avignon. En 1950, il y a eu une première soirée qui avait été faite à Brissac. C'était Roméo et Juliette. Donc avant, c'était au château de Brissac.
Ouais.
Après, ça a eu lieu au château d'Angers en 1951. Et ça s'appelait à l'époque le Festival d'Angers. Il a fallu attendre 1975 pour qu'on l'appelle Festival d'Anjou. Alors César de Gouard, il l'a trouvé à partir de 1985, où il y avait comme directeur artistique, tout le monde s'en rappelle, Jean-Claude Brialy, qui a fait beaucoup pour le Festival d'Anjou. Mm-hmm. Il a été directeur artistique jusqu'en 2001, donc très très long. Après, on a eu Francis Perrin, Nicolas Briançon, et puis actuellement, c'est Jean-Robert Charrier, ancien directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Alors, qu'est-ce que nous prévoit cette 74e édition?
Voilà, c'est ça qui nous intéresse, parce que si ça ouvre aujourd'hui, on veut savoir.
Un bon festival d'Anjou, donc c'est toujours un mix d'œuvres classiques et d'œuvres contemporaines. Donc, faut satisfaire tous les publics, les scolaires, comme les férus de théâtre. Donc, en œuvres classiques, on aura toujours, bien sûr, Molière, avec la pièce L'Avare. Donc ça, c'est le 3 et 4 juin au Plessis Massé. Ça se passe souvent au Plessis Massé, hein. C'est vraiment le lieu destiné
d'ailleurs, c'est très joli. Ouais, c'est très agréable là-bas.
On aura fin de partie, une pièce de Thomas Beckett avec Denis Lavant, au Quatre Toussaint, donc à Angers. On aura une pièce de Marivaux, le fameux Jeu de l'amour et du hasard, le 26 juin au Plessis Massé. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a beaucoup de références à des gens qui ont existé, notamment une pièce qui s'appelle Il y a la côte de Vos. En fait, c'est un hommage à Raymond de Vos. C'est plusieurs acteurs comme Gérard Jugnot, Christophe Lévesque qui vont jouer des sketchs de Raymond de Vos. Mmh. Et ça a lieu au Plessis Massé le 12 juin. Il y a aussi une pièce avec Berléand et Nicolas Briançon autour de, ils jouent les personnages de Jean Poiret et de Michel Serrault. Un petit peu les sketchs qu'ils avaient fait ensemble, ça a l'air assez drôle. Ouais. Et puis il y a le 5 juin, on aura le dîner. Alors la pièce s'appelle Le dîner chez les Français de Valéry Giscard d'Estaing.
Oula, tiens, déjà le titre est rigolo. En fait,
faut savoir qu'à une époque, Giscard d'Estaing, il allait chez les Français et il s'invitait à manger avec eux. Et donc là, c'est une pièce satirique autour de sa vie. Il y a des spectacles à thème. Alors c'est sérieux, hein, on va parler de masculinité, de féminité et aussi d'IVG. Il y a deux pièces de Julie Berès, La tendresse et désobéir. Donc, il parle d'hommes et de femmes. Alors, je pense que désobéir, ça a l'air pas mal, parce que ça a l'air aussi d'être dansant. Il y a un très très bon buzz autour de cette pièce, désobéir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un peu de comédie avec Camille Chamou, à Douai-la-Fontaine, aux arènes de Douai-la-Fontaine. C'est aussi un lieu, emblématique du Festival d'Anjou.
Donc, c'est son one-man show?
Oui. Au Grand Théâtre, on aura Lorsque l'enfant paraît, une comédie avec Catherine Fraud et Michel Faux. Donc là, je pense que ça va attirer pas mal de monde. Une pièce qui s'appelle Cocorico aussi. Puis moi, j'avais envie d'aller voir Vidéo Club. C'est une pièce avec, j'adore cette actrice, Noémie Lovski et Yvan Attal. Alors, pressez-vous, parce que vu le monde qu'il y avait toute la journée au Grand Théâtre, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de place.
C'est vrai que...
Il y a eu quand même une baisse de fréquentation l'an dernier. Le festival était largement en déficit, quasiment de 183 000 euros, j'ai vu dans la presse. Le nombre d'œuvres a été revu à la baisse. Avant, ils avaient un petit concours des compagnies, un petit concours. Ils ont dû sucrer ça aussi parce que manque de moyens. Le prix des places a légèrement augmenté. Donc voilà, si vous voulez que ça perdure quand même, je pense, allez-y, prenez vos places, quoi. C'est toujours super. Enfin.
Ah oui, moi je me souviens de...
Après c'est en extérieur, hein, donc c'est qui tout
après,
double.
Après généralement, alors soit c'est annulé, soit c'est reporté dans un lieu clos. Quoi.
Mais on passe de super belles soirées quand même. Hein.
Oui, il y a eu des grands moments.
On peut boire un petit verre en arrivant.
On reparlait toujours d'une pièce de théâtre qu'on était allé voir, et c'était le jour d'une demi-finale de Coupe du Monde, et on entendait...
Ah oui.
On n'arrivait plus à entendre la pièce, on entendait les klaxons et tout. C'était...
Moi je me souviens de la pièce Les Gros patinent bien l'année dernière, c'était une comédie vraiment très populaire qui a fait énormément de bruit. C'est
alors
très,
pour,
très
pour, on n'est pas obligé de faire la queue pour commander des billets?
Non, on peut acheter en ligne.
On peut acheter en ligne?
Oui, on peut acheter en ligne.
D'accord. D'accord, bah, on s'en fout. Alors tant pis. Voilà. On est arrivé à 100%. Bah,
allez sur le site du festival d'Anjou.
Voilà, c'est ça. Bon, bah, t'as ton premier, on s'en fout de la journée, Olivier.
J'ai tout fait presque.
Mais t'as
bien fait.
Eh ben parfait, nickel. Allez.
Mais les gens s'en foutent du théâtre, s'en foutent du cinéma.
Mais t'es arrivé jusqu'au bout
qu'est-ce qu'ils aiment.
Bon, on verra si Sandra s'en sort mieux.
J'adore le cinéma. Quoi.
Sandra, qu'y a-t-il dans ton tiroir?
Alors moi, ce soir, j'ai trouvé dans mon tiroir un porte-clé. Voilà, parce que
t'en avais pas déjà trouvé un porte-clé? Elle serait pas en train de nous recycler une vieille truc là?
Ah bah non, c'est une nouvelle passion.
D'accord. Il fait pas boule à neige.
C'est une nouvelle passion là. Voilà, j'ai commencé les vide-greniers là, ça commence. Et donc je suis devenue copotléphile.
Oh là 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 là.
C'est collectionneur de porte-clé.
Ah. Je crois que ça faisait partie de la chronique de...
Exactement, c'était...
Non, c'est pas vrai.
Ah bah, tu vas voir qu'il va y avoir des similitudes.
Ah bah, d'accord, très bien, vous allez pouvoir discuter ensemble.
Merci.
Sandra.
Et donc, l'origine du porte-clés, c'est le porte-bonheur, soi-disant. Donc, c'est par exemple la patte de lapin au Moyen-Âge, ou encore une amulette avec un hérisson dans l'Égypte ancienne. Les soldats, même de la Première et Deuxième Guerre mondiale, portaient aussi des porte-clés fabriqués avec des restes d'obus. Et pour eux, c'était un porte-bonheur.
C'était quoi
en fait.
Les clés de leur BM ou c'était quoi
Ah non, c'était, je sais pas. Le monde
pas. Les clés à l'époque, ça devait des trucs de 30 kilos quand même. Hein. Donc le porte-clés, c'était des grosses clés quand même.
Oui, c'est vrai, à l'époque. Ouais.
Donc le porte-clés, la petite patte de lapin, elle ne devait pas être beaucoup. Hein.
Le hérisson, c'était lourd, hein, non?
C'est un vrai hérisson, en fait.
C'est pas vrai.
C'est une vraie bestiole.
Mort.
Tu touches pas.
Mais bon. L'inventeur du porte... Ben, en fait, c'était un porte-bonheur à l'époque. Mais en fait, c'était pas pour porter des clés, en fait. C'était un porte-bonheur au début.
D'accord.
Et ensuite, l'inventeur du porte-clé, c'est Frédéric Loubin. C'est un chanteur baryton et bricoleur à ses heures perdues.
Donc, c'est pas le Moyen-Âge, du coup. C'était plus récent.
Oui, oui, plus récent.
D'accord.
Qui a présenté un porte-clé mousqueton. En 1893, à l'exposition universelle de Chicago.
D'accord. Donc, on a associé après porte-bonheur à porte-clé.
En fait, c'est, non, le porte-clé, l'ancêtre, ce serait le porte-bonheur.
D'accord.
En
fait, la petite chose qu'on a toujours dans
c'est
la poche,
ça,
quoi.
Ouais, voilà. Portait,
parce que c'est la clé du bonheur.
Ouais. Mais à l'époque, on n'appelait pas, voilà, dans le Moyen-Âge, il n'y avait pas de porte-clé, en tout cas. Enfin, c'était juste la boucle, quoi.
Oui, ouais. Voilà. C'est surtout à partir des années 50 et 60 que la folie des porte-clés arrive, et même 70. Donc, pendant 20 ans, il y a eu la folie des porte-clés. Et c'était surtout un formidable support publicitaire. Donc, la première marque publicitaire, c'est Philips. Et ensuite, il y a eu Air France. Et surtout, les marques de voitures, en fait, aussi.
Ouais.
Qui ont
fait, forcément, il y a la clé de voiture, ouais. Hein, donc ça aide.
Oui.
Vous prenez la clé qui correspondait à sa voiture.
Donc, les porte-clés les plus, les plus recherchés, c'est les porte-clés Bourbon, en fait, en plexiglas. Il y a eu deux graphistes qui ont conçu en 20 ans 5000 modèles.
Ah, quand même.
Donc, en fait, ce sont des petits objets, comment vous expliquez ça? C'est des porte-clés à inclusion, un plexiglas transparent, avec un objet à l'intérieur ou alors une petite affiche, en fait.
Ah, d'accord.
Publicitaire.
Et Bourbon, c'est l'alcool, on va dire.
Et Non, je pense pas.
C'est quoi les Bourbons?
Oui, mais c'était pas... Non,
c'est autre
pas,
chose.
C'est... Ouais,
parce que les voitures Bourbon, je ne connais pas.
Je pense que c'est l'alcool. Oui.
Moi, je pense que c'est l'alcool. Hein.
Ah bah, j'avoue, je me suis pas
Jean-Michel à peu près, si tu nous écoutes.
Non, je me suis pas renseignée là-dessus.
C'est pas grave, c'est pas grave.
Ça coûte combien ça? Parce que j'en ai jeté samedi en fait.
Non, c'est vrai,
Florian.
C'est
vrai. Oui, c'est vrai, j'en ai jeté, mais des comme ça qui sont transparents. Non, il y a une
petite affiche à l'intérieur.
Ah là là, mais elle fait la collecte.
Mais je vais aller les récupérer.
Bah oui, voilà, c'est ça, récupère.
J'y pense.
Donc, ça vaut pas si. Non, ça vaut plus très cher parce que maintenant, enfin, il y en a pas. C'est plus comme avant, quoi. Je veux dire,
il y en a moins en moins de clés maintenant.
Aussi, mais c'est pas ça, c'est plutôt que c'est pas... Ça a moins la cote, quoi, malgré tout. Voilà.
C'était pas rare. Mais il y avait des porte-clés électroniques aussi, ceux qui sifflaient, on sifflait,
ah oui, ça
faisait bip, 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 bip. Ah, pardon, excuse-moi. Donc, non, je vais pas trop vite.
Dans les moments de pénurie, les plexiglas étaient même récupérés sur les cockpits d'avions tombés pendant la guerre 39-45.
Ah oui, ça recycle, ouais. Oui.
Donc, il y a plusieurs sortes de porte-clés, les porte-clés miniatures. Donc, il représente un objet en 3D, exemple des bouteilles, des cafés ou de la lessive. Mmh. Voilà. Il y a les porte-clés figurines. Exemple, vous avez Kodak, Bonus.
Ah oui.
L'Alsacienne aussi, je crois.
Ouais. Moi, j'ai un petit Dark Vador en Lego.
Ça ne m'étonne pas de toi, tiens.
Voilà.
Bon, tout le monde oui, aussi, fout, mais... plus récemment, on pourrait dire les bandes dessinées aussi.
Les Lego, les machins.
Ouais. Ouais. Donc, les porte-clés à inclusion. En fait, c'est bah donc c'est les porte clés Bourbon en plexiglas transparent, voilà, avec l'objet à l'intérieur.
C'est quoi Bourbon? Et
bah, non. c'est pas gentil.
Donc soit les fixes, soit soit liquide en fait, c'est-à-dire l'objet il est mobile en fait dedans.
Ah oui. Il y a comme boule à neige quoi.
On va dire ça. Il y a les visiomatiques. Alors, les visiomatiques, c'est en fait c'est une image qui change un petit peu de comment dire.
Ah, c'est comme, comme en 3D, quoi, avec le lenticulaire, et puis comme ça, voilà, on voit quand on
bouge de gauche à droite, et ça on a une photo différente. Ouais.
D'accord.
Et vous avez le porte-clés en métal, tout simplement.
Oui.
Et les utilitaires, c'est-à-dire qui ont une fonction, bah, exemple, une boussole, j'en ai une, moi, de très longtemps, qui représente une boussole, un mètre, une lampe, bah, porte-pièce.
Les ouvre-bouteilles, surtout.
Ça peut, oui, les ouvre-bouteilles.
Beaucoup, oui.
Ça me redonne envie de refaire une collection de porte-clés.
Oh là là, mais allez tous les deux aller faire
les.
Ah, bon, on veut les voir.
Ben voilà, allez-y ensemble.
Et les tomatropes.
Une collection à vous présenter.
Alors les tomatropes, je connais pas.
Ah oui.
C'est très rare. C'est un disque mobile autour d'un axe. Alors je sais pas comment expliquer. C'est un petit disque en fait.
Ouais.
Et en fait, vous allez faire une pichenette et puis ça va tourner. Et dessus, il y a des lettres et qui deviennent visibles lorsque le disque tourne. On voit apparaître un mot ou une phrase.
C'est les anciennes techniques de cinéma, ça. Okay.
Donc ça, c'est très rare.
Mm. C'est
alors, bon, je vais pas... Il y a aussi plusieurs types d'anneaux, en fait, pour porter. Donc, on reconnaît, par exemple, les Bourbons, parce que l'anneau est en forme de fer à cheval.
Mm-hmm. Alors, voilà. Pour moi, c'est une marque, hein. Marque Bourbon. Bourbon.
Mais une marque de quoi
qui construisait des porte-clés.
D'accord. Ah, d'accord, c'est carrément la marque de porte-clés.
La marque de porte-clés.
Ah oui, d'accord, ils mettent... ok. Mm.
Et donc, dans les années 2000, vous avez bah, les porte-clés en peluche, par exemple, les porte-clés électroniques connectés, effectivement, Wi-Fi pour connecter. Maintenant, vous avez porte-clés connectés à votre téléphone.
Le smartphone, oui. Voilà. Mais moi, je pensais à ceux qui sifflaient. On sifflait, puis faisait bip, 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 pour les retrouver quand on les avait perdus.
Ah bon, tu
ah oui.
Ouais. Il y avait un film qui a été fait là-dessus, qui s'appelait I Love You.
Ok.
Voilà. C'est la culture, c'est la culture. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis.
Alors, autre chose que, bah, tout simplement, que je voulais... Voilà, que j'ai découvert, mais qui est beaucoup moins bien, c'est j'ai découvert qu'en Chine, en fait, il y avait des porte-clés vivants. Est-ce que vous connaissez
ça?
Oh
non, là, c'est une poisseur avec des animaux dedans.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Oh non,
c'est
non.
Une pratique, en fait, voilà, qui est très à la mode, soi-disant. Dans une poche d'eau, vous trouvez des poissons, des mini-tortues,
oh,
etc. Pauvres. Voilà. Et qui survivent seulement quelques jours. Donc, fallait quand même dénoncer, on va dire, ce scandale.
Tout à l'heure, t'étais pas très loin.
Et ça a débuté en 2012, et en 2024, ça existe toujours, quoi.
Ouais. Bon.
Quel scandale.
Ouais. Eh ben écoute, c'est pas mal, t'es à 50%.
Voilà, donc portez-vous.
C'est vraiment très intéressant.
C'est désespérant.
Nous, mes collègues.
C'est Olivier est jaloux. Il s'est pris à 100%. Il est jaloux.
Nous montrer ta collection.
Ah, allez, elle va ressortir ses porte-clés. Florian, le retour. On parle de quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est encore des morts?
J'ai pas tout ramené, hein, mais bon.
Là, on est en train de regarder les porte-clés en même temps. Elle a fini sa chronique maintenant.
Alors, c'est pas des morts, mais c'est quelque chose qui est en voie de disparition.
Ah, d'accord. Très bien. Alors, positivons.
Ah, c'est tout de suite? D'accord.
Bah oui, c'est toi maintenant. Oui, on t'écoute.
Alors, écoutez, j'ai ouvert mon tiroir et j'ai retrouvé un timbre.
Ah.
Un vieux timbre. Puisque maintenant, les timbres sont quand
même... Oui, maintenant, les timbres sont forcément vieux. Il n'y a plus beaucoup de timbres.
Voilà, donc je vous ai trouvé quelques informations sur le timbre.
D'accord.
Et notamment sur les timbres qui valent les plus chers.
Ah oui, c'est soirée collection ce soir.
C'est
alors,
d'accord. Ah non, vous n'avez pas entendu ma chronique.
Ah, toi aussi, c'est collectionneur. Oui. D'accord. Donc un timbre, ça s'appelle comment? Un timbrophile?
Un timbre-poste.
Le collectionneur.
Un
combien?
Un philatéliste.
Oui, ah, bah, évidemment, un philatéliste.
La personne qui collectionne les timbres.
Un philate.
Le timbre en France, le premier timbre qui a été imprimé, il a été fait en 1849. C'était le 1er janvier, puisqu'en fait, c'était une réforme de la Poste qui est entrée en vigueur au tout début janvier 1849. Et le principe, c'était de faire payer déjà l'expéditeur et non plus la personne qui reçoit le courrier, parce qu'avant, c'était comme ça à la Poste.
Ah oui. Ah,
c'est la personne qui recevait.
Tu vois le courrier, tu le veux, tu payes.
Voilà, c'est ça.
D'accord, ok.
Et en fait, bah, ceux qui transportaient les courriers. À l'époque, en fait, et ben souvent, ils se confrontaient à des personnes qui ne voulaient pas payer.
Oui.
Qui ne voulaient pas payer. Et donc, forcément, ben, en fait,
la course pour rien.
Ils transportaient la lettre pour rien. Donc, pour pallier à ça, du coup, on s'est dit, on fait payer l'expéditeur à moindre coût. Hein, parce qu'avant, celui qui recevait le courrier payait quand même pas mal. Apparemment, c'était d'accord. Très cher. Et du coup, l'idée, c'était de faire à moindre coût. Donc, un tarif unique pour la France, la Corse et l'Algérie. Et donc, le premier timbre était à 20 centimes. Il était noir, c'était le 20 centimes noir pour les lettres qui ne dépassaient pas 7 grammes et demi.
D'accord.
Donc c'était vraiment juste une feuille, quoi, un petit pli.
Mais 20 centimes pour l'époque, c'était cher quand même.
20 centimes, c'était cher, mais en tout cas, ça permettait quand même aux personnes de pouvoir quand même envoyer du courrier. Donc on avait le 20 centimes, on avait le 40 centimes, qui était pour des envois de 7,50 grammes jusqu'à 15 grammes, et vous aviez le 1 franc. Pour un envoi de 15 grammes jusqu'à 100 grammes.
Et dès le départ, c'était des trucs à lécher ou...
Dès le départ, c'était des timbres en
avec une
papier,
colle à lécher,
potentiellement en papier, ouais, c'est ça. Qu'on mettait sur sa lettre. Voilà. Donc ça part quand même de l'Angleterre, parce que le timbre a quand même été inventé, enfin, en tout cas dans la période moderne, en 1840, hein, c'est la reine Victoria qui a dit on change le système, et je mets ma tête d'ailleurs sur les timbres. Hein.
C'est stamp.
C'est bien mieux, stamp. Voilà. Donc stamp. Le premier timbre, c'était le One Penny Black. Il était noir aussi, du coup la France a copié carrément les couleurs aussi.
Un penny, du coup.
Des timbres anglais, et donc c'était effectivement, un penny aussi, c'était pour les lettres de moins de 15 grammes. Voilà, donc après ça s'est un peu généralisé. Alors les Suisses ont tout de suite pris le pli, c'est le cas de le dire. En 1843, le timbre se diffuse pas mal en Suisse, au Brésil aussi, puis après,
le monde entier, États-Unis,
France, Belgique, Bavière, Espagne, et ça suit son cours...
Ça suit son cours. Pas mal. Vas-y, tu vas nous en faire beaucoup, là. Hein. On te sent, là. C'est bon, vas-y.
Il était pas fait exprès. Est-ce que vous savez qui y avait sur les premiers timbres français, du coup?
Qui y avait?
1959.
C'était quoi la représentation?
La Marianne?
Alors, la Marianne, oui, mais une sorte de Marianne.
Une sorte de Marianne.
Qui a un nom. Marianne James?
Particulier. Non, en fait, c'était la CRS. C'est le timbre CRS. Alors, non, là, ça vous dit rien.
Là, tu m'as bien vu la sorte.
Ah oui, d'accord, elle a vu.
Ok. Donc c'est le timbre CRS. Donc
en bas de votre radio, regardez.
C'est voilà. Donc en fait, c'est un. La CRS a été dessinée par Jacques-Jean Barre.
Enchanté.
Qui en fait s'inspire des dessins de son fils qui est revenu des îles de la mer Égée. Okay. Donc en fait, il dit tiens, ça serait bien de représenter la liberté. Et
on n'est pas loin de s'en battre les couilles quand même. moi, je dis ça, je dis rien. Pour l'instant, t'es toujours à 100%, je ne comprends pas.
Moi, je suis très intéressé.
Par une femme, voilà, au trait un petit peu antique, hein, du coup, avec des branches dans les cheveux.
Oui, elle est bizarre quand même.
Et du coup, depuis.
Tout droit à son nez.
Depuis, cette représentation ne nous a pas forcément quittés parce que, en fait, c'est devenu la Marianne après. Alors, à des versions différentes, mais en tout cas, ça a toujours été la Marianne après. Sur les timbres les plus basiques.
Oui, mais les Mariannes changeaient, puisque c'était des...
Oui, les Mariannes changeaient, ils ont changé plusieurs fois.
Des femmes différentes.
Ils ont changé plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai la liste de toutes les Mariannes.
Ah oui, on la veut toutes.
Si ça vous intéresse.
Alors, quel est son prix chez les collectionneurs?
À 50%, donc à mon avis, si tu fais la liste des Mariannes, je pense que tu vas arriver à
ça. Chez les collectionneurs, alors, le premier...
La version noire comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, le timbre CRS le plus recherché en France, c'est le vermillon. Qui dans sa version bloc de 4 timbres, donc c'est le même, 20 centimes mais en version vermillon, coûte, a été estimé en tout cas à 1,5 million d'euros.
Oh là là,
vache.
Ouais, absolument content.
Sandra, t'as pas ça?
Tu l'as pas celui-ci?
C'est fou ça.
Bon, alors c'est l'un des timbres les plus chers au monde. Hein. Mais après vous en avez d'autres qui sont très recherchés. Il y a des timbres de Guyane britannique, le One Cent Magenta. Qui a été vendu 9,5 millions de dollars américains en 2014. Donc c'est vraiment le record. Vous avez le Orange Red One Penny de l'île Maurice, c'est pareil, qui a atteint des sommes folles. Et puis après, vous avez des sommes un peu plus modestes, hein, 80 000 euros, 40 000 euros, voire 3 000 dollars après pour le Penny Black. Voilà, certains.
Okay.
Alors, mais tous les timbres ne sont pas forcément faits en papier.
Ah,
nous, on connaît le papier, effectivement, avec la petite gomme derrière qu'il faut lécher pour coller sur la lettre. Mais il y a des États qui ont été un peu plus originaux et qui ont fait des timbres
en métal.
En feuilles d'or, par exemple.
Ah oui, tu vois, c'est pas loin, en plus.
Voilà, donc, quelques pays d'Afrique ont fait ça.
Mais ils se faisaient voler les lettres.
Du Golfe et Persique, en fait.
Si, tu mets un timbre, le mec, il voit dans la poste. Ah bah oui, mais ça, tu
en
fais.
En feuilles d'or, c'est très léger, c'est très subtil, tu vois. C'est...
D'accord, ok.
Sinon, vous avez le Bhoutan qui a mis des timbres en plastique et en relief. En vinyle, en carton, en papier parfumé, enfin voilà. Enfin, les États sont très très imaginatifs pour faire coller des timbres, pour faire acheter des timbres surtout. Donc en métaux précieux.
C'est plus lourd que la lettre en fait.
Du coup, tu payes à chaque fois le prix du timbre. Et d'ailleurs, en l'an 2000, la Poste française a émis un timbre en l'honneur de la métallurgie qui représentait une tour Eiffel en argent. Alors, couche déposée à chaud à 0,3 mm. Donc c'est vraiment du vrai argent. Donc il y avait la tour Eiffel et la fusée Ariane. Qui avait ce timbre-là, donc d'accord. Je ne sais pas combien il coûte aujourd'hui.
Oui, ça doit être intéressant.
Voilà, et puis après, vous avez des timbres en, donc en acier, des timbres en bois aussi. Djibouti, le Gabon a fait ça, la Suisse aussi a fait un timbre en
timbre
bois.
Timbre en bois.
Alors, j'imagine en petit.
Ouais, c'est pour les colis, hein, c'est pas pour les lettres. Hein. Sinon.
En tout cas, des timbres en soie, donc ça aussi, c'est très.
Ah oui.
C'est très délicat.
C'est très délicat.
C'était au Bhoutan aussi, des timbres en dentelle en Italie, en peluche.
Ah oui.
À Sierra Leone. Et des timbres en broderie aussi en Suisse ou en Autriche. Donc voilà.
Ah, ça y est, tu l'as. Bah, tu l'as cherché un peu.
Vous savez
tu l'as un petit peu cherché.
Question subsidiaire. Est-ce que vous savez le prix du timbre aujourd'hui, le timbre vert, là, le truc très basique?
€1,20
€1,60 Raphaël.
Ouais.
Ah, ouais, t'es déjà 5 ans plus tard, ça. 1,29 aujourd'hui.
Ah, tu vois, j'avais
okay. Ouais.
Mais moi, j'ai fait faire des timbres personnalisés avec des dessins que je réalise. Donc, on reçoit des timbres avec nos dessins dessus.
D'accord.
Ça coûte un certain prix, mais c'est super d'avoir ces timbres à soi.
Et c'est valable, ils sont homologués, tu peux les utiliser?
Comment? Oui, pourquoi pas.
Mais ils sont homologués, tu peux les utiliser pour envoyer.
Bien sûr, ouais.
Tu dessines.
Un petit peu. Allez, on continue. Tiens, justement, Raphaël, c'est à toi.
Très bien. Alors, dans mon tiroir, j'ai retrouvé Anna Fea. Mais qui est Anna Fea, me diriez-vous?
C'est la question.
Alors, Anna Fea est une poupée plutôt moche, d'où son nom. En espagnol, Fea, c'est moche, hein, je l'ai appris hier soir.
Ah, d'accord.
Qui se met en scène sur les réseaux, et notamment durant l'année 2020, pendant 365 jours sur Instagram. Donc, elle a posté des photos d'elle dans les rues d'Angers, avec la statue de Niki de Saint-Phal, dans la fontaine du Jardin du Mail, dans la rue du Volier, ou lors de ses voyages, mais aussi dans un sandwich, en train de faire du shopping sur Internet, au concert de Vianney, à l'Olympia. On la voit aussi en train de jouer au Molki ou bien la tête plongée dans un melon. Bref.
Attends, déjà j'ai pas compris. C'est un personnage réel?
Alors, je vais tout vous expliquer.
Ah oui, parce que
voilà,
j'ai pas
dans des
compris.
Situations insolites. Vous pouvez aller voir directement sur le compte Instagram Anna-FEA2020. Et vous comprendrez tout le principe.
Ok.
Du coup, on la voit dans des situations insolites, mais aussi poétiques. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que 4 ans après ce défi insolite, Anna Fea va bientôt faire un nouveau parler d'elle dans un livre dont elle sera l'héroïne. Alors derrière Anna Fea se cache l'artiste photographe Annabelle Drone, qui à travers ce projet artistique s'est lancée dans le défi de mettre en scène une poupée qu'elle a reçue de la part de son ex-belle-mère à un moment très symbolique pour elle. Elle a donc mis en scène son personnage dans plein de situations, l'occasion parfois de délivrer des messages revendicatifs, féministes, personnels. Ça a duré 1 an et ensuite elle a fait des tirages de ses photos pour les exposer dans différents lieux de vente. Alors, ce projet a été pour Annabelle l'occasion de rencontrer plein de monde, de créateurs, de s'amuser, mais aussi de faire honte à ses enfants, hein, comme cette fois où la poupée s'est prise en selfie avec des stars sur des pochettes de disques dans les rayons de la Fnac. Alors, Anna Fea a eu le droit à une coiffure, à un tatouage par des professionnels et même son portrait dans les rues de Montmartre. Annabelle a réellement payé l'artiste. Elle a aussi fait un tour de manège et pour l'anecdote, sa créatrice a aussi payé le ticket du tour de manège. Alors, ce projet, du coup, tout le monde n'adhère pas. Mais ce que j'ai aimé chez Annabelle, elle le dit elle-même, hein, c'est qu'elle a été au bout de son projet, au-delà de toutes les critiques, elle s'est amusée, n'a pas eu peur du ridicule. Alors parfois, elle est dans des situations insolites où elle doit prendre la photo, elle est accroupie, presque allongée par terre pour prendre sa petite poupée qui est toute petite en photo.
C'est toujours la même poupée ou parce qu'elle doit s'user à la mettre dans
c'est
tous les sens.
C'est toujours la même poupée. Alors effectivement, au bout d'un moment, elle commence à s'abîmer. Donc,
c'est un peu comme une poupée Barbie, ouais.
Un
fait
peu incroyable.
Petit lutin de Noël là qu'on met.
Le petit nain de jardin.
Moi, ça me fait penser à Raphaël qui cachait
des canards.
Cette tradition.
Non.
Quelques semaines avant Noël, t'achètes des petits lutins.
Ah oui, c'est exactement.
Tu leur fais faire des positions ou des scènes bizarres. Tu les prends en photo.
Okay. Non, ça marche très bien dans les familles avec les enfants.
Ça fait penser à Amélie Poulain. Ils étalent la farine, ils sont dans les toilettes, ils enlèvent le PQ et tout. Tu les prends en photo après, c'est marrant.
Donc au-delà de ça, c'est vrai que ces photos, elles sont assez magnifiques. Les couleurs, elles sont pop, elles sont jolies. Il y a des beaux contrastes, des beaux effets d'ombre. Donc en fait, en grand, ces photos, elles sont très très belles. Du coup, je vous encourage vraiment à vous amuser à faire défiler les photos, hein, qui vous remontera aussi des souvenirs liés à la période du confinement. Et elle va sans doute faire parler d'elle dans ce fameux livre dont je vous parlais en collaboration avec l'auteur Enzo Clémo, qui est en cours de recherche d'éditeur. Du coup, ça va être une véritable histoire avec un début, une fin, une histoire qui monte crescendo. Alors ça commence assez sage, puis ça sera une explosion d'humour. Ça sera riche et drôle. Et au fait, Anna recherche un amoureux. Elle s'inscrit sur Mythic. Je vous assure qu'elle a un compte Mythic. Super. Et reçoit même, à ce qu'il paraît, plein de messages. Donc voilà, c'est un projet complètement décalé, un gros coup de cœur pour ce projet artistique.
C'était vraiment très intéressant.
Ok, eh ben écoute, t'es à 100%, bravo.
Bravo.
Joe, on parle de quoi ce soir ?
Alors moi ce soir, dans mon tiroir, j'ai retrouvé une planche de surf.
Ah oui.
Et ça m'a fait penser au film Pas de vagues. Ah, est-ce que vous connaissez ?
Non. Avec ah, Franchassi. Oui. Ah, bah,
exactement. Alors donc pour ceux qui connaissent, Pas de vagues n'a absolument rien à voir avec le monde du surf. C'est un film qui est sorti le 27 mars dernier, avec à la réalisation Teddy Lucie Modeste, qui en soi est un ancien prof et qui a donc réalisé un film sur les profs. Donc comme tu le disais Olivier, ou c'est Raphaël qui l'a dit, c'est un film avec François Civil, donc qui joue le rôle d'un prof. Et pour le coup, il va, alors l'intrigue va se passer très très vite. Vous savez le concept de mise en situation,
Bah ça commence tout de suite.
Truc qui, enfin élément déclencheur, ouais. C'est tout de suite. Ouais, c'est vraiment au bout de 2 minutes, okay. Vraiment. Et alors de toute façon, on le voit directement dans la bande-annonce. C'est un prof de français qui est dans un collège et qui fait un cours de français et qui à un moment pourrait essayer d'expliquer un concept dit à une élève. Je pourrais dire par exemple à Lucie, tu as, elle est très embottée avec sa nouvelle coiffure. Donc il parle de l'éloquence,
L'élégance.
Non. Quand tu dis à quelqu'un quelque chose, tu le.
Si vous avez les mots de Joe,
ça
pourra l'aider.
Non, c'est pas le mot que je cherche, mais les compliments. Il complimente la fille. Mais voilà, c'est juste pour expliquer son propos. Et il se trouve que bon, bah voilà, il le fait à une fille qui est particulièrement timide, ok. Et pas de bol, en fait, juste derrière, il va y avoir un début de rumeur de la part des élèves, de la part de la fille, comme quoi le prof harcèlerait cette jeune fille. Donc, nous, on le voit quand même beaucoup du point de vue de François Civil. Au début, il y a un léger doute qui est très vite retiré, où on se dit, ben non, en fait, c'est juste plein de choses qui se sont mises les unes sur les autres, et c'est juste des coïncidences. C'est pas de bol, sauf que, voilà, il y a plusieurs choses qui font que tout le monde pense que ce prof harcèle la gamine. Et en plus de ça, la gamine, elle a un frère qui est... En gros, bah, c'est l'aîné de la famille, il n'y a plus de père, donc c'est lui qui gère tout. La mère, elle parle, je crois, très peu français, donc c'est lui qui s'occupe de tout, c'est lui qui vient chercher sa sœur. Et en fait, c'est quelqu'un qui fait un peu peur. Il menace sa sœur, si elle ment, de la tuer, entre guillemets, et il menace le prof que si c'est lui qui fait vraiment ça, il la tue. Donc en gros, il y a déjà cette pression de la part de la famille de la jeune fille qui n'est pas ouf à gérer pour le prof.
Mmh.
Mais... il a du bol à ce moment-là. Il est soutenu par ses collègues. Donc déjà, on sent que voilà, il y a quand même une question de soutien de la part de son entourage.
Okay.
Un petit peu moins du côté du.
Raconte pas tout. Du coup.
Non. Je raconte pas tout. C'est juste en fait ce que le film met en avant, c'est que ces choses-là, en fait, ses soutiens, il va les perdre au fur et à mesure. Et le nom du film, Pas de vagues, en fait, ça va être le mot d'ordre qui va être donné, notamment par la direction, pour il faut pas faire de vagues, il faut pas en parler, il faut pas. Il se met en avant. Lui, il essaie de se défendre, en fait, tout simplement. Mmh. Hein. Il essaie de dire, bah non, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est juste un jeune prof qui est ambitieux, qui a envie d'aider ses élèves. On est dans un collège, de zone défavorisée. Et lui, il essaie des choses, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui avaient réussi des examens, et il les emmène à un kebab pour les féliciter. C'est très simple. C'est vraiment, et en plus, il le fait avec son argent à lui. Il avait demandé l'autorisation des parents, etc. Mais ça, c'est mal perçu parce que, ah, bah, il emmène des enfants avec lui manger. Et en fait, il y a plein de petites choses comme ça où lui, voilà, c'est juste par gentillesse et il a ce côté ambitieux mais un peu naïf. Mm-hmm. De se dire voilà je vais aider ces jeunes, et en fait ça va se retourner contre lui malheureusement, et c'est ça qui est mis en avant dans ce film.
C'est à base d'une histoire vraie ou c'est
alors oui au final c'est inspiré d'une histoire vraie, et d'ailleurs alors ça fait penser un petit peu comment il s'appelle le film, c'est Un métier sérieux, où il y avait je sais plus qui réalise, mais c'était avec Adèle Exarchopoulos qui parlait des profs aussi. Alors là c'était une jeune prof qui venait d'arriver, qui il y avait une question de saper l'autorité rapidement ou pas. Donc voilà, tout ce que je veux dire c'est que toute la question du film est sur la légitimité du prof, ou le fait que bah, est-ce qu'il est réellement capable de faire ça, ou alors est-ce que c'est juste quelqu'un qui a essayé quelque chose de nouveau en essayant d'être proche de ses élèves et qui du coup s'est retrouvé avec...
Alors la partie du film, si j'ai bien compris, c'est quand même elle est pour le prof.
Alors non, justement, parce que c'est ce que je disais, au début il y a le soutien au début de
ses
collègues.
Même les spectateurs doutent.
Non, le spectateur ne doute pas. Il y a un élément que je vais pas spoiler, mais qui fait que il y a peu de chance en fait que cette personne soit attirée par cette jeune fille. Mais c'est juste
d'accord,
que
okay.
Voilà.
Non, mais, okay.
Voilà.
C'est bon, on a tout compris.
Exactement. Mais voilà, c'est surtout en fait c'est le l'abandon de soutien qu'on va sentir, ouais, surtout au niveau de sa direction qui au pas début lui dit, bah en fait je peux pas, on peut pas faire d'action en justice.
Ok. Alors,
en fait c'est possible.
Olivier, tu le conseilles aussi?
Ah oui, mais alors par contre c'est hyper stressant.
Ouais.
C'est incroyable. Tu sais pas comment tu peux réagir. Enfin, je m'imaginais en tant que prof.
Tu sais pas de quel camp tu
passes. Mais je veux dire parce que t'es pris entre les élèves, les parents d'élèves, les profs, les collègues profs,
mes proches,
le directeur, et même ta vie intime, quoi, ta femme, ton mari, et c'est juste, tu pètes un câble, quoi.
Oui.
C'est impressionnant, quoi.
Ouais, c'est vraiment la pression qui est constante.
Moi, ça m'a vraiment secoué, très secoué.
Je pense qu'on aura de plus en plus ce genre de cas. De
oui, il y a eu aussi un autre film récemment là qui a traité de ce sujet, La salle des profs aussi, qui était vraiment
très fort. Ça ressemble quoi, ça?
Et la musique dans ce film-là, c'est R, je crois, qui a fait la musique de ce film-là. La musique, il paraît qu'elle est exceptionnelle.
Et d'ailleurs, tu me fais même penser à un autre film qui est très peu connu, s'appelle La chasse avec Matt Mikkelsen, qui est un film suédois, si je dis pas de bêtises, c'est un prof, mais de maternelle, là. Et en fait, il y a une jeune fille qui dit qu'il l'a touchée, alors que pas du tout. Et c'est juste, en fait, elle voulait juste de l'attention. Mais en fait, tout le monde va se retourner contre lui.
Ouais.
Et voilà. C'est des sujets, effectivement, qui vont revenir sûrement de plus en plus. Mais voilà, c'est très intéressant. Et comme le dit Olivier, c'est vraiment très prenant. Donc, je vous le conseille fortement.
Ok. Et ben, vas-y, intéressant.
C'est vraiment très intéressant.
Allez, Bruno, cours dans le studio.
Je cours. Allez, dans quelques minutes, on refouvrira nos tiroirs. Mais avant, on va jouer au Graal. Le Graal, c'est le podcast qui vous fait découvrir en deux minutes les films, les séries, les musiques. Ce soir, c'est une série. Écoutez bien autour de la table et même chez vous, écoutez, vous pouvez répondre sur le chat. Un indice, maison anglophone.
Salut, partons à la rencontre d'une série. À l'aide d'indices, vous avez deux minutes pour en retrouver le titre. Soyez attentifs à ce que va vous raconter la voix clonée française du personnage principal. Serez-vous le plus rapide pour découvrir le nom de cette série? C'est parti.
Alors, vous voilà ici à m'écouter, alors que je suis probablement en train de vous mentir. Laissez-moi vous dire que ce boulot est tout sauf ennuyeux. Mes collègues, oh, ils sont presque aussi intéressants que de deviner si votre toux est due à une simple grippe ou à une allergie à votre chat. Ce que j'adore, c'est résoudre des cas plus tordus que ma vie. Des cas intrigants, des patients mystérieux et des médecins qui pensent qu'ils savent tout. Je me souviens de moments mémorables, comme quand j'ai résolu ce cas bizarre en détectant une simple allergie aux cacahuètes ou quand j'ai retiré une tumeur du cerveau pendant que j'étais moi-même sur le point de crever. Ah, les souvenirs! C'est presque aussi bon que de trouver un diagnostic rare. Bien sûr, il y a mes amis et mes ennemis. Wilson, mon côté moral, le gars qui fait tout ce que je ne peux pas, comme sourire. Et puis, il y a Cuddy, la patronne qui veut que je suive des règles. Vous parlez d'un défi. Alors, si vous voulez voir un médecin qui résout des énigmes médicales tout en lançant des répliques aussi tranchantes que ses diagnostics, vous êtes au bon endroit. Plongez dans mon univers médical unique, et qui sait, vous pourriez même apprendre quelque chose sur la médecine, ou sur la vie, ou juste rire un peu. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Allez, le devoir m'appelle. Juste le temps de prendre ma canne. Bon courage pour retrouver le Graal.
Grégory vous a-t-il fait découvrir cette série médicale de 2004? Je vous laisse encore quelques secondes. Il fallait découvrir la série Dr House. À bientôt pour un nouveau Graal.
Bon, on l'a retrouvé assez vite autour de la table. Hein.
Effectivement. C'est un docteur.
Donc, à la maison, en anglais, ça se dit House. Effectivement. Bravo. Très bien. Allez, vous êtes toujours en DMT. Dans un instant, on retrouvera les chroniqueurs. Il y a encore Raphaël qui a fouillé dans son tiroir avec une petite chose tout à l'heure. Je pense que c'est en rapport avec les porte-clés. On verra. Mais avant, un petit peu de musique. Est-ce que vous connaissez Aldebert?
Oui.
Oui, Aldebert. C'est un auteur, compositeur, interprète qui depuis plus de 20 ans chante des chansons souvent liées à l'enfance et même souvent pour un public d'enfants. Alors pour toute une génération, les chansons pour enfants, c'est Dorothée et Chantal Goya, hein, on connaît que ça. Eh bien les temps changent, vous allez voir. Ce soir, je vous propose une chanson pour les enfants d'aujourd'hui. Elle s'appelle Le cartel des cartables. Bon, ah, comme c'est dans l'air du temps, c'est du featuring. Alors c'est un duo, hein, quoi. C'est même un trio avec Max et Igor Cavalera. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez. En fait, ce sont des métalleux. C'est des Brésiliens, deux Brésiliens métalleux, qui se donc associent à Aldebert. Alors là, vous dites que pour une chanson d'enfant, ça va quand même déboucher les cases à miel, et vous avez raison. Voici donc, pour les petits et les grands, Aldebert avec le cartel des cartables.
No more school bullying. Chaque jour de la semaine, accusé au final de n'être que moi-même. Fragile et sans armure, j'ai le cœur battant. Moi qui rase les murs, parcours du combattant. Entre les représailles et les ultimatums, les pseudo-samouraïs, Yakuza de trois pommes. Entendez ma prière sous la lune.
Out of my way.
Écoutez la colère sous ma plume. Le cœur dans un étau, je suis à leur merci. Les parrains du préau en ont décidé ainsi. Il n'y a pas de raison, je suis juste une cible dans une drôle de prison aux barreaux invisibles. Quand l'espoir s'envole sous le poids des menaces, c'est l'enfance qui s'étiole et nos rêves qui s'effacent.
Pour qui est
entendez ma prière sous la lune.
Pour qu'elle visère
écoutez la colère sous ma plume. Entendez ma prière sous la lune.
Out of my way.
Écoutez la colère sous ma plume.
On n'en peut plus là. Hein. On a eu du air guitare, on a eu du air saxophone, mais je ne sais pas où ils ont trouvé le saxophone dans l'histoire. En tout cas, c'est Aldebert et qui chantait donc en duo, en featuring avec des métalleux brésiliens. Vous êtes toujours
sur Radio G.
Oui, vous êtes toujours dans DMT sur Radio G, l'émission qui vous donne le pouvoir. Rendez-vous sur le site radio-g.fr. Vous allez encore pouvoir voter cette fois-ci pour la rubrique de Raphaël. C'est reparti.
Alors oui, c'est un peu rigolo, même beaucoup rigolo, parce que en fait, on a parlé de collections au début, et j'ai une chronique autour des collections.
Ah, des collections en général.
Par exemple, j'ai découvert que j'étais boxophérophile.
Est-ce que vous savez ça? Alors des boîtes en fer.
Des boîtes en fer.
Voilà.
Ah, mais moi aussi.
Donc je donne des collections.
Ils ont la même maladie.
Ce soir, c'est quand même trop drôle.
Moi, c'est ma première collection, ma toute première.
Ah bon? Tu avais fait les boules à neige, non?
Oh là là.
Ah, c'est
donc voilà, oui, voilà, c'est ça, des petites boîtes en ferraille.
Donc,
parce que là, cette fois-ci, j'ai vraiment ouvert mon tiroir et vraiment dans mon tiroir, j'ai vraiment trouvé ces boîtes, d'où l'idée de cette chronique.
Vous avez des vies passionnantes, les amis. Hein.
Ah, bah oui, je sais. Et du coup, bah, oui, effectivement, alors, en fait, c'est pas la pire des collections que j'ai, hein, parce que je collectionne d'autres.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Alors, de quoi en collection?
Bah, vas-y, oui.
Bah, les canards en plastique.
Ah, oui,
bien. Les baleines aussi.
Ceux qui collectionnent les canards en plastique,
un
poids de céphale,
et puis des baleines aussi, j'adore
des baleines.
Autour des baleines.
Ouais, ça dépend, tu les mets où?
Oh. Quelle question. Alors du coup, effectivement, en fait, j'ai vraiment découvert tout un monde. Il y a vraiment des collectionneurs assez incroyables. Des collectionneurs de boîtes de sardines, par exemple. Il y a carrément un musée de la boîte de sardines.
Mmh. Enfin, non ouverte.
Moi, je collectionne celle de Delphine Cossé.
Ah oui, elle fait des peintures dessus, c'est ça ou...
Ouais, c'est ça, oui.
D'accord. Alors, j'ai découvert également des collectionneurs de pochettes d'allumettes, hein, les filuménistes. Voilà, donc il y a plein de gens qui collectionnent des... Alors, j'ai retrouvé des collections insolites, comme par exemple les collectionneurs d'agrafes retirés de documents.
Ça n'a aucun intérêt.
Mais c'est obsessionnel, hein, parfois.
Donc, il l'encadre, il dit ça, avant, c'était un document pas. Comme ça.
Des collectionneurs de taille-crayon aussi, donc ça, c'est un peu plus commun.
Moi, quand j'étais petit, je m'étais fait une boîte comme ça en métal, du coup,
ouais.
Avec les copeaux du crayon.
Et tu collectionnais les copeaux.
Je passais tout doucement le crayon dans le taille crayon.
Ouais.
Et ça faisait vraiment un truc en
un truc joli. T'étais artiste.
Et du coup, je les ai gardés.
Ouais. Oh, t'en as parlé à ton médecin.
C'est magnifique.
Tu gardes aussi les écorces d'orange ou de mandarine.
Oui,
aussi,
mais on a tous fait des collections. Moi, je me souviens, j'ai collectionné les images Poulain. Je sais pas si vous, à l'époque. Donc
effectivement. Mais alors, ça a des noms, tous ces trucs que tu as trouvés, non?
Ah oui, alors, non, ah oui, non, mais c'est des noms hyper compliqués. Les musées de la boîte, c'est les Puxisardinophilies, ceux qui collectionnent les boîtes de sardines. J'ai aussi trouvé des collections, une Australienne, qui collectionne les insectes qui s'aventurent dans sa maison. Les collectionneurs de distributeurs de pèse aux couleurs de différents résidents des États-Unis. Ouais. Vous savez, les petits bonbons, là, dans des petites boîtes en long, comme avec des personnages.
Oh oui, c'est la mode.
Qu'est-ce qu'on a d'autre en insolite? Les collectionneurs de crayons usés, pareil. Donc, faut vraiment que les crayons soient usés. Un collectionneur de boîtes de Pringles aussi. Collectionneur de dents de requin, donc un peu plus compliqué Donc, il y en a des tonnes et c'est incroyable. Enfin, c'est des collectionneurs de balles de golf moches. C'est pareil. Ouais. Où est-ce qu'ils trouvent
tout ça?
Après,
tout est relatif, mais. Donc, okay. Très bien. Eh ben, écoute, c'était intéressant.
Une émission axée sur les collections ce soir.
Ouais, elles sont belles, les boîtes. C'est vrai. C'est une idée. Je crois qu'elle va nous faire une chronique là-dessus, parce qu'elle fait aussi, elle, hein. Allez, c'est l'heure, à nouveau du Graal. Alors, celui qui nous raconte des histoires cette fois-ci. Et ce soir, il est question de voyage.
Bonjour, les humains. Je suis une IA et je parcours les archives de l'humanité. Bienvenue dans le Graal de l'Histoire. On se demande quelquefois, enfin, surtout vous, comment les informations historiques arrivent jusqu'à vous, justement. Les grands aventuriers ne faisaient pas de selfies de leur voyage. Il a fallu parfois des coïncidences étonnantes pour qu'une histoire arrive jusqu'à aujourd'hui. Il y a plus de 720 ans, un navigateur se retrouve dans une bagarre entre deux bandes rivales. Il est arrêté et écope d'un an de prison. Voilà, fin de l'histoire. Enfin, non, le début en fait. Ce personnage est un très grand voyageur. Et s'il n'avait pas été arrêté et mis en prison avec un écrivain, il est fort possible qu'on ne s'en souvienne pas aujourd'hui. Grâce aux écrits de son co-détenu, le monde occidental a découvert le Tibet, la Mongolie ou encore la Thaïlande, qui s'appelait le Siam à l'époque. Les livres parlent même de la Chine et de ses avancées technologiques. Les ouvrages s'appellent « Le dévisement du monde » ou « Le livre des merveilles ». L'auteur, donc prisonnier avec le navigateur à l'époque, est Rusticello de Pise. Mais surtout, le grand voyageur est passé à la postérité grâce à ce séjour en prison. Il s'appelait Marco Polo. À bientôt pour un nouveau Graal de l'Histoire.
C'était donc le Graal de l'Histoire à découvrir sur Spotify et le site radio-g.fr, rubrique podcast plus. Allez, c'est le moment de la chanson improbable. Alors on plonge dans les années 80 où la créativité musicale accouche du meilleur comme du pire. Et le pire, eh bien, c'est ça qu'on a aimé en 1980. On se sent coupable aujourd'hui, mais bon, c'était comme ça. C'est le cas de cette chanson. C'est K-Zero. Ça vous dit quelque chose? K-Zero? Un duo. En 1986, un titre totalement désabusé et absurde. Voici Taï Nana sur Radio G.
Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille qui était vraiment typique, que tous les voisins appelaient
histoire et quel ange quand elle t'a dit monsieur, essuyez-vous les pieds, vous serez bien gentil car j'aurai pas à repasser après vous. Mais oui madame. Tous les voisins appelés Taïnanana. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit monsieur, essuyez-vous les pieds, vous serez bien gentil car j'aurai pas à repasser après vous. Mais oui, madame.
Ah bah oui, c'est censuré. Bah oui, que voulez-vous, que voulez-vous. Enfin, en même temps, c'est un titre un petit peu spécial quand même.
Hein. C'était bien.
Ouais, ça s'appelait Tainana de Kazeo et c'était un titre de 1986. Allez, on va jouer maintenant.
Oui.
Donc vous, chez vous, vous pouvez jouer également, bien sûr. Alors, j'ai demandé à une intelligence artificielle de reprendre les textes et les chansons connues avec des mélodies et des rythmes différents. C'est à vous de me dire ici, il y a un chat, l'interprète et le titre de la chanson originale. Donc, il n'y a que les paroles hein, qui sont réelles. Juste avec les paroles, essayez de retrouver la chanson originale. C'est parti.
C'était dans ces années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode. Elle a choisi le père en scientifique pour ses gènes, son signe astrologique. Et elle court toute la journée, elle court de décembre en été. De la nourrice à la baby-sitter, de paquet de couches au biberon de 4 heures. Et elle fume, 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 même au petit déjeuner. Elle défait son grand lit toute seule. Et elle vit comme dans tous ces magazines où le fric et les hommes sont faciles. Elle défait son grand lit toute seule.
Donc, ben c'est bon, ça y est, il y a même Joe qui est sorti chez le coiffeur apparemment, qui donc nous écrit que c'est Jean-Jacques Goldman, effectivement, et Olivier avait trouvé avec...
Elle a fait un bébé
toute seule. Un bébé toute seule, c'est les paroles de ça. Allez, attention, deuxième chanson plus récente.
Je sais ce que tu vas dire. C'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir. Et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir. Je l'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là. Pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on est.
Alors, bah, Olivier a trouvé. Bah,
c'est Pierre Garnier. Et la chanson, c'est, je sais plus.
Ce qu'on était.
Oui.
Voilà, effectivement. Alors, attention, troisième chanson. On vous rappelle, donc, il n'y a que les paroles qui sont vraies. La voix et la musique, c'est pas du tout ça. Il faut essayer de trouver, bien sûr, l'interprète original et le titre original. Bon, sur le chat, il y a Pat et Joe qui ont trouvé effectivement, c'était
Michel
Sardou avec Enchantant. Attention, un peu plus ancien maintenant. Eh bien, bravo à Joe et à Pat également. La vie en rose, qui, Joe dit que c'est la sympa, la version. C'est vrai que
ça peut être sympa pour la cérémonie de
la vie en rose.
L'ouverture des Jeux Olympiques.
Oui, c'est ça, ça serait très bien aussi. Très Allez, unique. Une petite dernière. On y va. Écoutez.
C'est comme un amer, comme un goût de poussière dans tout. Et ma colère qui me suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup, plus que tous les mots qu'on m'avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout.
Ok, alors là, non, Pat, c'était pas effectivement, c'était pas Cabrel, non, c'était pas Julien Doré non plus. La voix, effectivement, non, alors c'était.
C'était évidemment de France Gall.
D'accord,
bah, évidemment.
Il y a Mappy qui te souhaite une bonne soirée, Olivier.
Qui ça? Mappy. Ah bah oui, ma chef.
Ouais. Ah d'accord, ok, bah écoutez, enchanté, très bien, vous venez pour la fin de l'émission. Vous pouvez écouter l'intégralité du podcast et cette fois-ci, il n'a pas lu le livre de d'habitude. Alors, de la dernière fois, hein, l'avez écouté la dernière fois avec le livre. Non, la série de la dernière fois.
Sur Monsieur 20 cm.
C'est ça, voilà. Ça devait être sympa le lendemain au café pour en reparler. Ah, j'ai écouté ta chronique, c'était bien. Allez, c'est la fin de ce numéro de Dans mon tiroir, l'émission qui vous donne le pouvoir. Merci aux chroniqueurs du soir. Merci Olivier.
Merci.
Merci Sandra.
Merci, portez-vous bien.
Merci Florian.
Eh bien, merci.
Merci Raphaël.
Merci beaucoup.
Merci Jo.
Merci.
On rappelle que si vous êtes chanteur, vous pouvez participer gratuitement à Radiovision, le concours de chansons de Radio G. Rendez-vous sur radiovision.fr jusqu'à la fin du mois. On se quitte avec notre chanson de fin et on se retrouve quand vous voulez sur le site radio-g.fr. Et n'oubliez pas, avec Dans mon tiroir, vous avez le
pouvoir. Vous venez d'écouter DMT, une émission de Radio G. Pendant une heure, vous avez pu voter et même chatter. C'est fini pour aujourd'hui. Mais il y aura d'autres mardis. N'ayez pas trop de peine. On se retrouve dans deux semaines. Ce soir, les chroniqueurs ont vraiment tous eu peur. Que vous actionniez le buzzer pour leur plus grand malheur. Mais c'est fini pour aujourd'hui. Mais il y aura d'autres mardis. N'ayez pas trop de peine. On se retrouve dans deux semaines. À bientôt sur Radio G, en direct ou en différé. En podcast ou en FM, on fait comme on aime. Alors oui, c'est fini pour aujourd'hui. Mais il y aura d'autres mardis. N'ayez pas trop de peine. On se retrouve dans deux semaines. Si vous avez aimé jouer avec le crâne, écoutez les podcasts, c'est pas mal. Que soit le jeu de découverte ou de l'histoire, c'est toujours chouette. Mais c'est fini pour aujourd'hui. Mais il y aura d'autres mardis. N'ayez pas trop de peine. On se retrouve dans deux semaines.
www.radio-g.fr